Voilà, fallait.
Essaye.
Essaie de.
Là, ça, bah là, ça marche. Ça y est, c'est bon.
Vas-y.
Là, tu m'entends là?
Non.
Là, tu m'entends pas là?
Vas-y.
Est-ce que tu m'entends quand je parle là?
T'as ah oui, mais c'est bien en mono parce que je t'entends.
Bon, bah c'est bon, il y a un signal.
Je t'entends seulement dans l'oreille droite.
Ok, il y a un signal. Bon, alors, comment on fait après pour l'arrêter? Je mets comme. Faut faire. Merde, faut faire comment après? Je mets ça comme ça là? Attends.
Non, mais... Et moi aussi, on m'entend.
Non, mais je ne vais pas rappeler le.
Là, ça tourne.
Comment dire, le CV de Suzy, on le fera en direct. Hein.
Ça tourne.
Voilà. Alors, Suzy Collin, qui est avec nous ce soir. Bonsoir, Suzy.
Bonsoir.
Alors, nous sommes heureux, bien sûr, de vous recevoir à nouveau pour cette semaine de l'astronomie, une de plus. Et je dois dire, c'est toujours pour notre plus grand bonheur, car vous avez beaucoup travaillé sur des sujets qui sont à l'honneur aujourd'hui, puisque avec les moyens dont on dispose actuellement, on va de plus en plus loin dans l'univers, on sonde de plus en plus profond, et on connaît de mieux en mieux cet univers qui nous entoure. Et vous êtes une spécialiste des galaxies, en tout cas du cœur des galaxies, d'objets très lointains, quelquefois comme les quasars. Alors ce soir, vous n'allez pas nous parler des quasars, mais des trous noirs géants au cœur des galaxies. Alors ça, c'est un peu... c'est pas étrange pour les astronomes, puisqu'on savait qu'il y avait des trous noirs et qu'il en y avait forcément dans les galaxies. Et là, on a appris qu'il y avait des trous noirs géants dans le cœur des galaxies et peut-être dans la nôtre. Donc ça peut être très inquiétant. C'est peut-être pas inquiétant du tout, vous allez nous le dire. Et en tout cas, rappelons peut-être en quelques mots ce que c'est un trou noir. En quelques mots pour situer le sujet.
Alors en quelques mots, on peut dire que c'est un objet à la surface duquel la vitesse de libération est égale à la vitesse de la lumière. Alors naturellement, c'est une définition que n'accepterait pas quelqu'un qui serait spécialiste de relativité générale.
Oui, mais ça situe bien les... Voilà, ça très... veut dire que la lumière qui essaierait de s'en échapper, si cette étoile rayonne, elle retombe dessus.
Voilà, si on peut et très exactement. Ça.
Donc on ne peut pas voir de tels objets.
C'est pour ça qu'on les appelle les trous noirs.
Voilà, tout à fait. Alors évidemment, ça correspond aussi à beaucoup de choses en physique très très contemporaines. Il n'y a pas vraiment de définition satisfaisante, mais en tout cas, on sait que maintenant que ce sont des objets qui occasionnent une gravité très importante.
Absolument, ça c'était de toute façon déjà prévu par la théorie depuis très longtemps, et on a découvert ce type d'objet dans des étoiles, dans le cœur d'étoiles doubles dont on peut observer les mouvements relatifs, et ces mouvements relatifs permettent d'estimer la masse des deux étoiles. C'est assez compliqué, mais on y arrive. Et lorsque la masse de l'une de ces étoiles, qui est celle qui rayonne dans le domaine des rayons X, est plus grande que trois masses solaires, eh bien, on en déduit que nécessairement, il s'agit d'une étoile qui est une étoile compacte en fin de vie et qui a en fait atteint l'état de trou noir. Après avoir explosé sous forme d'une supernova. Oui.
Elle évoluera en trou noir ou c'est déjà un trou noir?
C'est déjà un trou noir.
Ah oui, alors ce qu'on voit, c'est pas le trou noir lui-même,
non.
C'est ce qu'il occasionne sur la matière
absolument.
Qui l'entoure.
Ce trou noir, ayant une gravité forte, attire la matière du compagnon, et c'est la matière du compagnon qui rayonne
qui
en arrivant...
Excitée, en
qui est excitée,
en quelque sorte.
En arrivant près du trou noir, et elle est portée à des températures très élevées, et ces températures très élevées se traduisent par un rayonnement dans le domaine des X. Donc on voit ces objets comme des objets qui rayonnent, qui sont très brillants dans le domaine X. On les a découverts maintenant il y a presque 30 temps, justement avec les premiers satellites.
Au siècle dernier, par conséquent.
Au siècle dernier, oui, exactement. Et donc, ces objets qui sont des trous noirs stellaires, on sait maintenant, on est sûr qu'ils existent dans notre galaxie.
Oui, parce que j'allais vous poser la question, est-ce qu'on en a trouvé, est-ce qu'on en a vu? Vous venez d'y répondre, donc c'est vrai que ces objets qui étaient prévus par la théorie de la relativité ont été réellement, on peut le dire, observés.
Pratiquement observé, on peut dire.
Alors, il y a peut-être, effectivement, il y a peut-être des trous noirs. Alors, on a parlé de mini-trous noirs, certains parlent même de micro-trous noirs, et puis il y a les trous noirs géants. Et alors, il y a ces trous noirs au cœur des galaxies. Est-ce que tout cela, c'est la même famille d'objets, ou est-ce qu'il y a des catégories ?
Non, c'est la même famille d'objets dans la mesure où un trou noir, c'est quand même quelque chose d'extrêmement simple puisque on ne sait pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur et c'est défini uniquement par deux ou trois quantités, c'est-à-dire la masse, la rotation et le champ électrique. Donc tous ces objets, qu'ils aient une fois la masse du Soleil ou bien un milliard de fois la masse du Soleil, ont les mêmes caractéristiques exactement, à savoir une forte gravité et la lumière qui ne peut pas en sortir.
Mais alors, ces trous noirs supermassifs que l'on trouve au cœur des galaxies, qui constituent vraiment l'astre central de la plupart des galaxies, on a dit, d'accord, qu'ils sont de la même origine... Ils sont justement, je me trompe, on coupera. Les trous noirs supermassifs qui sont au cœur des galaxies, on a dit qu'ils sont de la même famille que les trous noirs qui sont issus de l'effondrement du cadavre stellaire d'une étoile en fin de vie, d'une étoile massive. Oui. Maintenant, si on s'intéresse à l'origine de ces deux familles de trous noirs en quelque sorte, ce n'est pas la même origine pour un trou noir supermassif au centre d'une galaxie. Ce n'est pas une étoile énorme qui s'est effondrée et qui a constitué le centre d'une galaxie.
L'origine n'est pas la même, c'est ça ?
A priori, on n'en sait rien.
A priori, on n'en sait rien, parce qu'il est tout à fait possible qu'au moment où se sont formés les cœurs des galaxies, il y ait formation d'une espèce d'étoile supermassive qui, par la suite, se soit effondrée sous forme d'un trou noir. Il est aussi possible qu'on ne soit pas passé par ce stade d'étoile supermassive, mais simplement que le gaz soit tombé sur un petit trou noir qui, peu à peu, a accrété ce gaz qui arrivait et a grossi. Auquel cas, c'est pas tout à fait le même mécanisme, effectivement, que l'étoile qui s'effondre. Mais pour le moment, c'est une théorie qui n'est pas encore élaborée. On ne sait pas vraiment comment se sont formés au départ les trous noirs. On sait comment ils peuvent grossir par la suite, une fois qu'ils ont déjà acquis une certaine masse. Mais pour acquérir cette masse, eh bien, c'est encore à faire.
Alors, reparler de ces trous noirs, pour essayer de rechercher, d'émettre une hypothèse sur l'origine de ces trous noirs supermassifs, je sais que vous avez émis l'hypothèse pour planter le décor, je vais rappeler une chose, quand on observe loin le ciel profond, à différentes distances, on observe différentes époques de l'évolution de l'univers, et notamment aux confins de l'univers, certains objets qu'on appelle les quasars, des galaxies, des sortes de petites galaxies extrêmement actives.
Des noyaux de galaxies, peut-être, c'est ça, non ?
Peut-être.
Alors, oui. Peut-être. Ça permet finalement de reconstituer l'arbre généalogique des galaxies. Alors, est-ce qu'on peut dire, trouver en quelque sorte un chaînon manquant entre les quasars et les galaxies actuelles et dire que finalement, il y a une sorte de dilution de l'énergie à l'intérieur des galaxies ? Et que maintenant, il y a eu l'apparition des étoiles, et que ce n'est plus un rayonnement uniforme, comme au temps des quasars. Est-ce que maintenant, on a pu passer des quasars aux galaxies proches, actuelles ?
Alors, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. En fait, on arrive à observer des quasars jusqu'à des distances qui sont de quelques milliards d'années-lumière, presque jusqu'à 10 milliards d'années-lumière. Et quand on observe ces quasars, on s'aperçoit qu'il y a en fait non seulement le noyau, quelque chose, un objet ponctuel très brillant qui était ce qu'on appelait le quasar dans le temps, mais qu'il y a autour une sorte de galaxie qui ne ressemble pas réellement aux galaxies qu'on voit près de nous parce que c'est une espèce d'amas informe, très perturbé, en général de deux galaxies qui sont en interaction. Donc on a l'impression que ce qui favorise l'éclosion du quasar actif, c'est réellement l'interaction de galaxies avec des galaxies, l'interaction de plusieurs galaxies. Alors si on observe des quasars de plus en plus proches, on voit que cette tendance à être dans des galaxies extrêmement perturbées devient moins grande et peu à peu ça se normalise et on tend finalement dans les quasars qui sont proches à retrouver pratiquement des galaxies qui sont des galaxies elliptiques ou des galaxies, en général des galaxies elliptiques d'ailleurs, assez normales. Donc la séquence qu'on pourrait imaginer, c'est que depuis la formation des quasars à des très grandes distances, et là on ne peut pas les observer réellement, on peut observer seulement une source ponctuelle, eh bien, on a eu des ramasses, le quasar a ramassé des galaxies, et puis peu à peu, la galaxie s'est formée, a acquis sa forme habituelle, peut-être sans qu'il y ait la moindre intervention du trou noir central. Le trou noir central, là-dedans, est peut-être un phénomène secondaire, disons. On n'en sait rien. Ce qu'on sait, c'est qu'il s'est certainement formé dans le passé avec la formation des premières galaxies, mais on n'est pas du tout sûr qu'il ait eu la moindre influence sur le développement de la galaxie elle-même. Hein? Par contre, la galaxie elle-même a eu une influence sur le développement du trou noir.
Alors, on a reçu avant-hier Jacques Lascar qui nous a parlé du chaos. Et donc pour lui, en fait, son cadre de pensée, c'est la théorie de Newton, et la relativité générale, pour lui, rajoute un petit peu de précision, quelques secondes de précision au niveau des mesures. Qu'est-ce que vous pensez, vous ?
Ah bien, dans son travail à lui, c'est certainement le cas. Dans ce qui nous préoccupe, à savoir les trous noirs, la relativité générale est totalement indispensable. Et par exemple, il y a des observations qui ne peuvent pas être interprétées, pense-t-on, c'est un peu controversé, autrement qu'en faisant intervenir la relativité générale. Alors, c'est un petit peu difficile à expliquer. C'est l'observation, par exemple, de la forme d'une raie spectrale qui est formée très très près du trou noir. Enfin, c'est l'interprétation qu'on donne à cette forme qui est très perturbée. On observe dans le domaine des rayons X une en particulier raie spectrale intense, et cette raie spectrale elle a un profil, une forme qui est très particulière parce que elle est très très dilatée vers le rouge, vers les grandes longueurs d'onde. Et on interprète à l'heure actuelle cette dilatation vers les grandes longueurs d'onde comme étant due à un effet gravitationnel. Les photons ayant du mal à s'extraire de l'environnement très proche du trou noir, et en fait l'hypothèse qu'on va jusqu'à faire maintenant, c'est que cette raie spectrale est formée dans un gaz qui est très proche du trou noir, à pratiquement à la surface à l'horizon du trou noir, à un ou deux fois le rayon de l'horizon du trou noir. Et si effectivement c'est le cas, ben on ne peut pas interpréter autrement le profil de cette raie que par en faisant intervenir la relativité générale. La relativité restreinte n'est même pas suffisante pour interpréter ce profil.
Alors la relativité suppose aussi qu'un trou noir rayonne quand même un peu, et que plus il est petit, plus il rayonne.
Oui, alors ceci...
Est-ce qu'on pourrait les voir par ce biais-là ?
Les gros trous noirs dont je parle, certainement pas, parce que le rayonnement qu'ils peuvent émettre par ce processus qui est, je suppose, celui auquel vous faites allusion, et le processus décrit par Stephen Hawking, ne concerne que des micro-trous noirs et quelque chose qui n'atteint pas l'échelle du macroscopique. C'est exactement comme le cas de la mécanique quantique qu'on ne peut pas appliquer à l'échelle macroscopique.
Le trou noir supermassif de notre galaxie, il a bien été découvert dans le Sagittaire, c'est ça ? Dans la constellation du Sagittaire.
Oui, c'est ça, dans la constellation du Sagittaire. Et la source qui porte le nom, enfin qui, dans lequel se trouve ce trou noir, c'est une source radio, donc dans le domaine des ondes radio, qui s'appelle Sagittarius A étoile. D'accord. Et c'est là-dedans qu'on suspecte que est la masse centrale qu'on a détectée par des moyens très très intéressants et très compliqués, enfin surtout qui ont mis en œuvre du travail sur une quinzaine d'années, on a pu détecter l'existence d'une masse noire de l'ordre de 2 millions de fois la masse du Soleil.
Alors, une dernière petite question avant de nous intéresser aux travaux de recherche de M. Jean-Paul Zahn. Est-ce qu'on va s'intéresser aux galaxies comme on les voit en tant que telles actuellement ? Est-ce que, par exemple, dans le cas de notre galaxie, ce trou noir supermassif régit un peu la galaxie entière ? Est-ce que ça orchestre un petit peu, gravitationnellement parlant, toutes les étoiles autour, comme le Soleil orchestre les planètes ?
Eh bien, ça orchestre effectivement les étoiles qui sont autour, absolument, mais dans un rayon qui est relativement qui est limité. Et le rayon est environ de l'ordre de une année-lumière. Et autour dans cette année-lumière, eh bien, les étoiles manifestent des mouvements. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a découvert l'existence de ce trou noir. Ont des mouvements très importants qui sont dus à la gravitation du trou noir. Mais au-delà, eh bien, il n'y a plus d'influence du trou noir, et sauf éventuellement par l'intermédiaire de vents qui serait éjecté au voisinage du trou noir et qui se manifeste sous forme de gaz qu'on observe à quelques dizaines d'années-lumière du centre de la galaxie avec des mouvements importants de l'ordre du millier de kilomètres par seconde. Mais on n'est même pas sûr que ça soit vraiment l'intervention du trou noir là-dedans.
Donc si j'ai bien suivi, j'ai un peu moins de crainte que le trou noir au cœur de notre galaxie nous avale un jour. Est-ce que c'est du domaine du possible ?
Je ne crois pas que ceci soit effectivement possible, mais par contre, il est tout à fait imaginable que le trou noir au centre de notre galaxie, que nous ne voyons pas du tout et qui a vraiment une activité complètement négligeable à l'heure actuelle, soit réactivé un jour, simplement par exemple un nuage moléculaire qui tomberait dedans, ou bien si une galaxie se rapproche de la nôtre et arrive à créer des mouvements importants qui drainent la matière jusqu'au centre de la galaxie, eh bien on peut envisager que notre galaxie elle-même devienne une galaxie active entièrement dont la luminosité, la puissance serait entièrement dominée par le trou noir et là, on le verrait vraiment rayonner presque comme un soleil à ce moment-là.
Merci Suzy Collin.
Alors, a priori, toutes les étoiles ne peuvent pas devenir des trous noirs. D'après ce que vous avez dit tout à l'heure, il faut qu'il y ait une masse minimum de 3 masses solaires. C'est ça ?
Je crois que c'est 3 masses solaires, ou c'est un peu moins peut-être.
3 masses à peu près.
Alors, le titre de votre conférence, Jean-Paul Zahn, c'est « Le Soleil au maximum d'activité ». Alors, si on se tourne vers le Soleil, au maximum d'activité, c'est-à-dire que le Soleil, il est actif, alors que nous, tous les jours, on le voit quand même... Enfin, quand on arrive à le voir, on le voit à peu près toujours de la même façon. Au maximum d'activité, ça veut dire quoi au juste ?
Eh bien, on connaît le cycle d'activité du Soleil en regardant sa surface. Il y a des taches en général, et il y en a plus ou moins. Et quand il est à son maximum, c'est là qu'il y a le plus de taches. Effectivement, comme vous dites, l'homme de la rue, ça n'aperçoit pas du tout. On peut voir des taches à l'œil nu, hein, en prenant des précautions, hein, des lunettes... soudeur par exemple, ou celle qu'on a achetée pour regarder la dernière éclipse. Mais c'est un phénomène finalement assez faible et qui a relativement peu de conséquences. Il nous intéresse beaucoup parce que notre durée de vie à nous, elle est d'une soixantaine, de 80 ans, et donc un cycle d'activité de 10 ou 11 ans, on peut l'observer plusieurs fois dans notre vie. Alors que le Soleil évolue sur des échelles de temps qui sont beaucoup plus longues, des millions, voire des milliards d'années, et ça nous dépasse complètement. Donc notre intérêt pour l'activité solaire, c'est surtout parce que c'est un cycle qui se produit dans un temps que nous arrivons à maîtriser en tant qu'homme. Et naturellement, c'est accompagné d'un tas de phénomènes qui sont spectaculaires, et qui ont une certaine influence sur la Terre, quand même, il faut le dire.
Alors on va peut-être, on n'aurait pas besoin, on va rappeler quand même que le Soleil est une étoile. Alors on a la chance effectivement que cette étoile soit relativement proche, et d'ailleurs la seule dont on peut voir un diamètre apparent assez important, hein, mais peut-être d'ici quelques années, avec les progrès d'interférométrie, on aura des diamètres apparents pour des étoiles également. Alors l'intérêt du Soleil, bien sûr, c'est de nous voir de près le fonctionnement d'une étoile. Et aussi, est-ce que le Soleil, il y en a même qui ont dit, le Soleil est presque une étoile variable parce qu'il y a une variation d'activité. Mais est-ce que c'est dû... Est-ce que le Soleil serait une étoile variable si on l'observait à la même échelle que les autres étoiles, c'est-à-dire très très loin, ou est-ce que c'est simplement parce qu'il est près que l'on observe ces variations, et quel est l'intérêt d'observer ces variations, justement ?
Bon, il y a des étoiles comme le Soleil qu'on observe et que l'on voit actives. Quand le Soleil était très jeune, son cycle d'activité était beaucoup plus prononcé. Hein. Il y avait beaucoup plus d'énergie qui était émise dans le cycle d'activité. C'est quand il s'est mis à ralentir, parce qu'il tournait relativement vite au départ, il faisait peut-être un tour en un jour, et maintenant il lui faut à peu près un mois pour faire un tour.
Il y a beaucoup de gens qui ignorent d'ailleurs que le Soleil tourne sur lui-même. Hein. Ça, c'est marrant à rappeler aussi.
C'est vrai.
Le soleil tourne comme la Terre.
Et ça, on s'en aperçoit en suivant les tâches, hein, de jour en jour. C'est comme ça qu'on s'est aperçu que le Soleil tourne.
Oui, oui.
Et d'ailleurs, de manière assez curieuse, parce qu'il ne tourne pas de manière uniforme. L'équateur tourne plus vite que les pôles, ce qui est
oui,
étrange.
Un peu comme Jupiter, un peu, comme, oui. Puisque c'était des masses fluides, le Soleil.
C'est des masses fluides. Voilà, c'est la preuve que c'est une masse fluide.
Oui, donc.
Donc, il y a des étoiles qui varient comme le Soleil, et avec les instruments qu'on a maintenant, on pourrait détecter l'activité du Soleil si c'était sur une étoile. Donc, s'il y a des êtres intelligent quelque part qui regarde le soleil, il pourrait détecter, mais vraiment à la marge et à la limite, l'activité du soleil.
Donc en fait, le soleil n'est pas une étoile si constante que cela.
Non.
Et de cela est née une nouvelle branche de l'astronomie qu'on appelle l'héliosismologie, c'est cela?
Oui, alors ça c'est une autre affaire, ça, oui. Effectivement, parce que le soleil...
Là, c'est plus la surface qu'on investigue, mais
c'est à la surface que l'on observe des oscillations, effectivement, qui sont des ondes acoustiques, des ondes sonores. Donc, et ces ondes sonores, elles se propagent à l'intérieur du soleil. Et en observant ces ondes et en déterminant leur fréquence, parce qu'il y a des fréquences qui sont tout à fait bien définies, on arrive à avoir une information sur l'intérieur du soleil. D'accord. Comme c'est des ondes acoustiques, ces ondes nous renseignent sur la vitesse du son à l'intérieur du soleil, la manière dont elle augmente avec la profondeur.
Un petit peu comme sur Terre, avec les ondes sismiques, on arrive
tout
à
fait, c'est pour ça qu'on appelait ça de la sismologie. Et donc c'est grâce à ça qu'on connaît maintenant la structure du soleil avec une précision qui est meilleure que le pourcent. C'est même meilleur que le pour mille maintenant.
C'est aussi bon que sur Terre, finalement.
C'est meilleur.
Ah oui, c'est souvent comme ça en astronomie, d'ailleurs. Ouais. D'ailleurs, on connaît bien mieux les choses que les systèmes solaires externes. Quand on en aura beaucoup, on connaîtra mieux le nôtre. Enfin, tout est un peu
tout
comme
à fait,
ça en science.
Tout à fait.
On connaît mieux les autres que soi-même.
Oui, voilà. Et Sylvie Vauclair parlait d'un soleil qui résonnait un peu comme une cloche, à cause de ses différentes couches de nature différente.
C'est tout à fait ça, oui.
C'est une vraie cacophonie à l'intérieur du soleil.
Alors si on pouvait écouter ça, mais évidemment, ces ondes acoustiques, qui sont des ondes sonores, ne se propagent pas dans le vide.
Voilà.
Sinon, on entendrait la cacophonie du soleil et il faudrait se boucher les oreilles.
Il y en a qui parlent de symphonie, et puis voilà, on ne sait pas, c'est un peu chaotique tout ça.
Alors, si je ne me trompe pas, vous avez été directeur du Pic du Midi, l'observatoire du Pic du Midi.
Où l'on observe le soleil, naturellement.
Donc, voilà, donc vous avez utilisé donc, le coronographe du Pic du Midi. Alors, le coronographe, c'est bien, mais les éclipses de soleil, c'est mieux pour étudier le soleil. Et notamment, une chose qui est troublante sur le soleil, c'est que sa couronne est beaucoup plus chaude que sa surface.
Oui.
Est-ce qu'on a des éléments de réponse, ou est-ce que c'est encore le point d'interrogation?
Oui, alors effectivement, c'était quelque chose d'assez étrange. Hein. On sait depuis les années 30 à peu près que la couronne est beaucoup plus chaude que la surface du soleil. La surface du soleil, c'est 6000 degrés à peu près.
La couronne, on va rappeler, c'est ce qu'on voit lors d'une éclipse,
oui.
Lorsqu'il est totalement caché, le soleil, tout d'un coup, on voit ce qu'on ne voit jamais sur le fond du ciel. Ouais. Et quand il est noir, on voit justement cette immense chevelure, on pourrait dire, enfin cette couronne, qui est deux ou trois fois le diamètre du soleil d'ailleurs.
Qui va beaucoup plus loin.
Qui va bien sûr beaucoup plus loin, mais c'est celle qu'on...
On peut dire qu'on est dans la couronne du soleil. Hein,
voilà, bien sûr.
Donc c'est en très très loin, effectivement. Et si on ne la voit pas en temps normal, c'est parce que la couronne est un million de fois moins lumineuse que le soleil lui-même. Et avec le ciel qui est bleu, hein, et qui est lui aussi à une certaine intensité, on n'arrive pas à voir la couronne. Donc, vous l'avez dit, il y a les éclipses. On peut observer la couronne. Il y a le coronographe où on occulte le disque du soleil avec un disque.
Mais là, il vaut mieux aller en montagne pour que le ciel soit, comme on dit, coronal, c'est-à-dire qu'il soit tellement pur que même quand il est bleu, on distingue quand même la couronne.
Tout à fait. Ouais. Plus on monte haut, moins il y a l'atmosphère au-dessus de nous et naturellement plus de couronne on voit.
Et donc pourquoi est-ce qu'elle est plus chaude, cette couronne?
Alors, le problème, c'est d'identifier la source d'énergie. Hein. Quelque chose est chaud quand on le chauffe. Et ce qui chauffe la couronne, on pourrait penser à la radiation, par exemple, du soleil. Mais la radiation, à la surface du soleil, est de 6000 degrés, elle ne peut pas porter un corps à une température plus élevée. C'est contraire aux lois de la thermodynamique. Donc il faut trouver autre chose. Alors ce qu'on a trouvé, c'est que ce sont les ondes, les mêmes qu'on observe pour faire la sismologie, qui se propagent dans la haute atmosphère du Soleil, et comme le milieu est de plus en plus raréfié, ces ondes, finalement, se transforment en chaleur et arrivent à chauffer ce milieu qui est très très ténu, qui a une densité extrêmement faible, et le porter à ces températures élevées qui sont de l'ordre du million de degrés, un million, deux millions de degrés. Alors, peut-être que le champ magnétique est associé à ça aussi. Et récemment, depuis qu'on a des satellites qui regardent le Soleil en permanence, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'énergie qui est catapultée dans la couronne aussi, sous forme d'éjection de matière. Donc, tout ça, ça contribue probablement à chauffer la couronne.
Quand on arrive à les retrouver, les satellites, quand on se fait des frayeurs, quand on les perd...
Exactement. Vous savez que le satellite Soho l'a perdu pendant 3 mois et c'était l'angoisse.
Belle frayeur.
Alors, pour étudier le Soleil, qu'est-ce que vous avez comme outil, comme méthode?
Eh bien, justement, la méthode vraiment la plus récente pour sonder l'intérieur du Soleil, c'est la sismologie. Elle a révolutionné complètement la physique stellaire. Il y a beaucoup de gens qui se mettent nouveau à étudier le Soleil, qui l'avaient un petit peu abandonné parce que on s'était intéressé à des sujets plus intéressants, qui semblaient plus intéressants, comme la cosmologie ou les trous noirs, etc. Mais maintenant, le Soleil passionne de nouveau parce qu'on a de plus en plus de renseignements sur le Soleil. Grâce à la sismologie et grâce à l'observation en continu de la surface du Soleil dans toutes les radiations, et ça c'est possible grâce aux satellites qui sont destinés à la recherche solaire.
Alors donc le Soleil a un certain cycle qu'on détermine par ses tâches, et moi j'ai lu en fait des choses sur le rapport entre ce cycle du Soleil et puis, enfin, ou bien en fait, il n'a pas qu'un seul cycle, parce qu'a priori, il a des cycles beaucoup plus longs aussi, qui correspondraient à d'autres phénomènes, ça par contre, je ne sais pas trop, mais certains scientifiques ont émis l'hypothèse que le climat sur Terre avait une variation qui pouvait ressembler à certains cycles du Soleil. Est-ce qu'on a réussi à déterminer un rapport exact entre le climat terrestre et puis l'activité solaire ?
Oh là là. On aimerait bien, hein, et ça a été effectivement recherché, donc on fait des corrélations, on essaie de voir. Il y a des gens aussi qui affirment que les grands vins de Bordeaux, ça suit à peu près le cycle solaire. Il n'y a rien de très bien établi encore là-dessus. C'est possible, hein. Encore que les énergies mises en jeu sont relativement faibles, et ce qui est affecté par l'activité solaire, c'est la très haute atmosphère, hein. Ça crée des aurores boréales, ça change l'état de l'ionosphère. Ça modifie la propagation des ondes radioélectriques, des choses comme ça. L'impact direct sur le climat n'est pas établi pour le moment. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne cherche pas à voir s'il y a un lien quelconque.
Alors, est-ce qu'il y a des risques, enfin, est-ce que cette rythmicité va être modifiée, va se modifier dans l'avenir, ou est-ce qu'on pense que ce sera toujours les mêmes rythmes dans la phase stable du Soleil ?
On ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que le Soleil, s'est arrêté de produire des tâches, où on avait très très peu pendant 70 ans, et ça a coïncidé avec le siècle de Louis XIV. Donc pendant le règne du roi Soleil, il y avait moins de tâches sur le Soleil. Est-ce qu'elles avaient peur du roi ? J'en sais rien.
Il y a eu une mini-ère glaciaire à ce moment-là.
Oui, mais qui semble être confinée à l'Europe. Hein. Pourquoi ça n'a pas affecté la Terre entière ? Là encore une fois, c'est vrai qu'il faisait très très froid, il y a des hivers très froids en France pendant...
Mais ce n'est pas lié au Soleil, je crois. Jacques Lascar avait relié ça justement à l'axe de la Terre, aux variations chaotiques de l'axe de la Terre, qui semble avoir peut-être beaucoup plus d'influence que les tâches solaires. Mais comme on observe souvent les tâches solaires et qu'on a beaucoup moins de connaissances sur ces rythmes dus à l'axe de la Terre, tous les rythmes liés au chaos, peut-être qu'on a attribué un peu hâtivement au Soleil ce qui est causé par d'autres facteurs. C'est possible, mais nous sommes bien sûr...
Les échelles de temps ne sont pas les mêmes. Hein. Oui. C'est plutôt en siècles ou voire en milliers d'années que ça se passe pour l'axe de rotation de la Terre. Tandis que là, on a quelque chose qui nous parle, parce que 11 ans, naturellement, c'est quelque chose qu'on peut suivre.
Une dernière question, messieurs.
Une toute dernière question pour Sisi Colin. On parle d'un autre type d'amas d'étoiles, les amas globulaires. Est-ce que ces amas d'étoiles qui sont en satellite autour de galaxies principales, galaxies spirales comme la nôtre par exemple, est-ce que ces amas globulaires ont aussi, comme un autre type d'amas globulaires comme les galaxies, ont aussi un trou noir dans leur centre ? Est-ce qu'on a pu en détecter un ?
Alors, effectivement, la question est tout à fait pertinente parce que ces amas globulaires, ils ont au centre des étoiles ou une étoile binaire, un couple d'étoiles qui semblent particulièrement massifs et qui sont probablement des trous noirs pour beaucoup d'entre eux. Mais des petits trous noirs comparés aux trous noirs dont je vous ai parlé, hein, peut-être d'une dizaine de masses solaires. Mais en tout cas, ça semble exister dans pratiquement tous les amas globulaires.
Moi, j'ai aussi une dernière question à propos des trous noirs. Est-ce qu'on peut détecter un trou noir même s'il n'a pas de compagnon ? Puisqu'a priori, le but, c'est d'avoir une étoile binaire dont l'une des composantes est un trou noir.
Alors, on peut probablement pas le détecter s'il est tout seul dans la galaxie, parce que la matière interstellaire qui se trouve autour est très ténue et ne peut pas l'approvisionner suffisamment. Il faut vraiment qu'il ait à sa proximité une étoile, en général géante, qui soit attirée, enfin dont la la matière, dont l'enveloppe soit attirée par lui. Par contre, les trous noirs dans les galaxies, au centre des galaxies, eux, ils ont de la matière, du gaz qui est présent là, parce que c'est une région très riche en gaz. Donc ceux-là, on les voit parce qu'ils ont du gaz autour. Mais je pense qu'on ne peut pas voir un trou noir isolé dans la galaxie, une étoile sous forme de trou noir, parce qu'il lui manquera de quoi rayonner. Par contre, il existe peut-être, et il en existe peut-être même beaucoup.
Donc finalement, un trou noir, quel que soit son type, qu'il soit intragalactique ou d'origine stellaire, c'est un ogre stellaire, il a besoin qu'on l'alimente. Quoi.
Ah, il a besoin qu'on l'alimente, sinon il n'est là, présent que par sa gravité, et on ne peut le voir que par éventuellement les distorsions qu'il donne sur la lumière qui viendrait de derrière, donc mirage gravitationnel, etc. Et puis, les perturbations dynamiques éventuellement d'étoiles qui sont au voisinage, qui n'auraient pas des mouvements ordinaires.
D'accord. Suzy Collin et Jean-Paul Zanne, on vous remercie. C'est toujours un grand plaisir de vous recevoir à la Société Astronomie de Nantes. Et au nom de la SAN, j'aimerais vous souhaiter tous mes voeux dans la continuité de votre carrière et dans le bon déroulement de vos recherches.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Au revoir.
C'est parfait.
C'était bien vos questions.
Ah oui.
C'était très pertinent.